Bienvenue et merci d'être là si nombreux. Je voudrais vous présenter notre travail à Vetopia, qui est une des premières fermes réellement pensées pour être porteuse d'un modèle d'agriculture végane en Belgique. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui font de l'agriculture végane, mais ici c'est revendiqué et c'est un des buts essentiels du projet. Alors, je vais commencer par un rapide. Je pense que, enfin, vous avez ça dans d'autres conférences, donc je vais pas m'étendre très fort, mais sur le contexte et la raison pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on a envie de développer une agriculture végane. Ben, parce que il y a un problème au niveau environnemental avec deux indicateurs assez forts qui sont la biodiversité, donc la sixième extinction, et d'autre part le CO2 et le changement climatique. Et ces deux indicateurs sont quand même fortement corrélés à la production de protéines animales. Donc, si on arrête l'élevage, et toute la filière des produits animaux, on va gagner pratiquement instantanément 15 à 30% des gaz à effet de serre. Alors, tout ça, c'est des calculs. Donc, on met des coefficients sur le méthane par rapport au CO2. Mais en fait, le méthane, il dure 10 fois moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2. Donc, on atténue quelque part l'effet sur 100 ans pour avoir une échelle commune entre le CO2 et le méthane. Mais en fait, la réalité, c'est que directement, on va gagner 15 à 30% et on doit agir directement. Donc, c'est quand même un argument assez important aussi, c'est le temps d'action. Si on arrête d'élever des animaux, directement, on va avoir un impact. Alors, deuxième élément, effectivement, la question du stockage CO2. On va voir que, effectivement, si on libère des surfaces, ça permet aussi de remettre des arbres associés avec des cultures et ça permet aussi de stocker énormément de CO2. Et on a, en développant l'agroforesterie, le potentiel à peu près de stocker toutes les émissions de CO2. Donc on voit qu'on a des solutions par rapport aux problèmes qui sont sinon relativement insolubles. Alors bon, ici c'est aussi le problème de la production de viande qui est illustré. Donc ça représente aujourd'hui les trois quarts des surfaces cultivées. Donc elles sont cultivées pour nourrir des animaux d'élevage. Et le ratio de conversion des protéines végétales en animales est globalement 1 pour 7. Donc c'est un énorme gaspillage de ressources alimentaires pour les humains. Et donc concrètement, voilà, vous avez deux bébés, le bébé blanc-bleu et un petit bébé, je sais pas si c'est un petit bébé somalien, le bébé blanc-bleu, il est bien mieux nourri, ça nous permet d'avoir de la viande pas chère. En fait, tous les jours, il va manger à peu près l'équivalent du poids de l'autre bébé. Donc, il y a quand même un problème moral sous-jacent à cette situation. Alors, quand on regarde le tableau sur l'Europe, voilà l'élevage européen, c'est 87 millions de bovins, 100 millions d'ovins, 150 millions de porcins, 6 milliards et demi de volailles. Et tout ça, c'est nourri avec notamment 20 millions d'hectares de protéines hors Europe. Et donc ça, c'est pris sur la forêt amazonienne globalement. On est à peu près 85%, c'est de la forêt amazonienne qu'on a rasée. Alors, on va refaire le petit cirque du quand ça revient, on pousse sur le bouton. Mais donc voilà, moi je vais parler un peu plus fort. Les céréales, il y a aussi à peu près 56% des céréales qui sont produites en Europe qui sont utilisées pour nourrir des animaux d'élevage. Et donc ça représente 31 millions d'hectares. Donc ça, c'est directement problématique. Il y a aussi des plantes fourragères, bien sûr, des oléoprotéagineux et donc des prairies qui, elles, sont dédiées aux animaux et où là c'est quand même un peu plus légitime d'utiliser ces surfaces pour nourrir des animaux, mais globalement ça fait 130 millions d'hectares pour 170 millions d'hectares de surface totale qui sont utilisées pour nourrir des animaux d'élevage. Donc ça pose effectivement un problème énorme de pression sur les écosystèmes. Et un problème moral, parce que finalement, pour avoir du steak pas cher, on a à peu près 800 millions, voire 1 milliard d'êtres humains qui ne mangent pas leur faim. Alors, on a une situation, il faut voir où on est, donc on est sur un pic. Je sais pas si on peut peut-être repousser sur le bouton méchamment.
Je te rappuie, c'est en train de
Bon,
Après, ça l'éteint un moment.
ben, enfin, je sais pas.
Là, il est en train de se rallumer.
Ouais, tu crois?
Ouais.
Allez, cool.
Il fait du bruit.
Donc, il y a une situation qui est une situation mondiale où, en fait, on a en très très peu de temps sur l'échelle de vie de l'humanité, hein, qui compte à peu près, ben, les premiers hominidés, on est sur à peu près 7 millions d'années. Ben, sur les dernières années, quelque part, il y a une explosion de la population humaine. Et donc, c'est un pic incroyable. Donc, la révolution néolithique, donc quand on a développé l'agriculture, bah, on était moins de 5 millions et on est passé à 100 millions, quoi. Hein? Donc, ensuite, il y a eu une deuxième révolution qui est le développement de la polyculture élevage au Moyen Âge, qui a encore permis de doper la population humaine. Et donc là, on est passé à 500 millions. Et puis, bon, maintenant, on est à 8 milliards, quoi. Donc, c'est vraiment une explosion de la population humaine. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette explosion démographique, ça va pas être possible de continuer à nourrir cette population avec de la viande. Hein, donc, la planète ne pourra pas y survivre quelque part. Alors, j'enchaîne mes slides. Oui, ils sont très très beaux, mais vous ne les voyez pas malheureusement. Boum. Et donc là, bon, voilà, je voudrais aussi revenir sur ce que c'est que le véganisme, parce que, bon, bah, évidemment, il faut s'entendre de quoi est-ce qu'on parle. Et je vais revenir sur la définition de son inventeur qui s'appelle Donald Watson, qui en 1944 nous dit « Le véganisme est la doctrine selon laquelle les animaux devraient, hein, « should » en anglais, vivre sans exploiter les animaux. » Donc, c'est ça l'idée. Donc on va essayer. En fait, c'est quelque part un combat très en avance parce que très inclusif. Parce que les animaux, bah, nous sommes aussi des animaux. Donc arrêter d'exploiter les animaux, c'est qu'est-ce que c'est exploiter? C'est prendre sans donner. Donc c'est quelque part pour moi c'est la cause la plus large qui existe aujourd'hui. Et on voit effectivement qu'il y a des mentalités qui commencent aussi à évoluer. Et donc là, je vous montre une photo que je trouve assez intéressante. Donc en dessous, bah, c'est comment on représentait le requin blanc du temps du commandant Cousteau. Donc on était dans une cage avec des barreaux en titane. Et puis là, c'est 2021, ça c'est Ocean Raven ou quelque chose comme ça. Donc c'est une plongeuse qui milite pour les requins, et donc elle est là, toute nue, sans protection, avec des palmes et un tuba, et elle nage devant le plus grand requin blanc que l'homme a observé, qu'on appelle Deep Blue. Et voilà. Donc il faut voir quand même l'évolution de nos mentalités par rapport aux animaux qui nous font peur, et donc c'est un changement pour moi majeur dans notre culture. Alors. Donc là, maintenant, je vais en venir à la question de l'agriculture. Bon, ben, voilà, le problème de l'agriculture, et c'est quelque chose dont les véganes ne sont pas toujours conscients, c'est que ben, quand vous mangez bio, vous mangez pas réellement végane. C'est-à-dire que le modèle de production bio, il est basé sur la polyculture élevage. Et donc, si on mange ben, des légumes qui sont produits dans l'agriculture bio, ils sont en général soit élevés avec du fumier, donc c'est lié à l'élevage et à l'exploitation animale, ou alors c'est parfois aussi des déchets d'abattoir qui permettent de les nourrir, donc notamment de la poudre de sang et des choses comme ça. Donc les déchets d'abattoir y passent, les fientes de poulet bio industriel y passent, etc. Et ça permet de faire des engrais en sac granulé, que les petits maraîchers de bord de ville qui n'ont pas accès à du fumier en grande quantité, ils vont utiliser ces petits granules comme engrais, et c'est ça qui permet aux légumes de pousser. Et donc, quelque part, ben voilà, est-ce que c'est vegan? Donc, pour la blague, j'ai mis que le seul qui n'était pas vegan, c'est mon aubergine, là. Et effectivement, il y a quand même un problème dont il faudrait... Ça veut pas redémarrer, là? C'est chiant, hein. Mais moi, quand je mets mon doigt, il est plus méchant et il y a plus de lumière qui s'allume. Enfin bon, je dis ça, mais mon doigt est gentil. Il y a un gentil doigt. Il est chiant. Hein. Ah, ouais, ça commence. Il y a une petite lumière. Au bout du tunnel, il y a une petite lumière. Donc voilà, oui, effectivement, la question n'est pas. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un problème aussi de conscience par rapport à ces modèles de production bio. Hein, je ne veux pas dire que c'est mal de produire bio ou tout ça, mais en tout cas, ça ne correspond pas aux prescrits vegan qui consistent à essayer de vivre sans exploiter. Alors, comment ça marche le système du bio et le système globalement de notre agriculture est basé sur la polyculture élevage. Et ici, ben voilà, je reprends, je cite un ami agronome éleveur et fan d'élevage. Il dit élever, c'est tuer. Et effectivement, et donc l'éleveur, donc le vegan, il va voir l'individu, mais l'éleveur, lui, va voir le troupeau. Il va essayer d'assurer la bonne santé du troupeau. Alors ici, j'ai fait le schéma. Dans le cadre en rouge de l'agriculture industrielle ou conventionnelle, et en vert dans le cadre de l'agriculture paysanne. Dans le cadre de l'agriculture paysanne, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, on va garder des vaches 18 ans. Hein, on va bien s'en occuper, les choyer, mais en fait, on va garder que les meilleures. Et donc, ça va occasionner un haut taux de réforme. Ça veut dire qu'on va tuer beaucoup de petites vaches pour s'occuper avec amour de meilleures vaches, tu vois, et dès qu'elles sont dans un petit problème, clops, à la boucherie, et on va garder juste les meilleures, donc on va chérir et dont on va s'occuper pendant toute leur très longue vie. Et ça, c'est la stratégie de l'agriculture paysanne. La stratégie de l'agriculture industrielle, c'est on les garde 4 ans, et puis tout le monde va à la boucherie. Mais on en garde plus. Et donc, globalement, quand vous produisez, hein, donc ici j'ai fait sur une ferme moyenne à peu près, quand vous produisez 1 kg de fromage, globalement vous avez coproduit 250 g de viande. Donc si vous mangez du fromage, vous mangez aussi de la viande qui doit être coproduite. Alors on pourrait dire, ben voilà, moi je suis végétarien et je suis content qu'il y ait des carnistes aussi pour manger les animaux qu'il faut bien tuer. Pourquoi est-ce qu'il faut les tuer ? Ben, parce que si vous voulez que ça produise du lait, une vache, ben, il faut qu'elle ait un bébé. Et donc, si on gardait tous les bébés, ben, à la fin, il y aurait plus de place sur la ferme, quoi. Hein, chaque année, un bébé en plus, quoi. Donc, au début, j'ai 50 vaches, et puis j'ai 100 vaches, et puis... et donc, à la fin, ben, il faut bien tuer les bébés, ou en tout cas, il faut tuer des vaches, parce que sinon, on ne saurait pas toutes les nourrir sur la ferme. Sauf si on apporte des aliments, mais alors, c'est le même truc sur la planète. La planète, Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils tuent des vaches. C'est parce qu'ils ne sauraient pas tous les garder, quoi. Ils ne sauraient pas tous les nourrir. Et que vous faites paysan ou industriel, globalement, ça équivaut à la même chose. Vous avez tué le même nombre de vaches parce que, voilà, si vous avez la place pour 50, vous n'avez pas la place pour 51. Alors, mais donc, existe-t-il une alternative ? Donc ça, c'est un modèle que j'avais conçu avec le système d'élevage, plutôt un système low-tech pour nourrir les wallons avec des micro-fermes, etc., dans un précédent projet. Donc voilà, ce modèle-là, il est robuste, il existe, on le comprend, les fermes avec des animaux et tout ça, on comprend tout ça. Et puis, il y a les véganes, et il faudrait quand même pas qu'on crée une espèce de petit monde parfait, vegan, sympa, mais qui, en fait, est alimenté par l'agro-business, c'est une critique qu'on fait souvent, ou qui est liée avec l'agriculture bio aux abattoirs et à l'élevage, etc. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça, c'est un peu hypocrite de dire, voilà, on va faire notre petite planète vegan, tout sympa, tout mignon, mais on ne regarde pas ce qu'il y a derrière, quoi. C'est d'ailleurs pas tellement dans l'esprit du véganisme. Alors, est-ce qu'il existe une alternative ? Faut-il inventer une agriculture végane ? Non, elle existe depuis un certain temps. Donc, le premier qui parlait de ça, c'était en 1950. Donc, ça date. C'est Adolf Hoppe en Allemagne qui a commencé à développer ces concepts très très longtemps. Et donc, il y a effectivement une agriculture végane. Il n'y a pas besoin de l'exister. Donc, qu'est-ce que je fais avec Topia ? J'essaie de répondre à un autre problème, qui est celui-là, c'est qu'elle ne se développe pas. Donc, si vous regardez, ben voilà, vous avez trouvé quelques dizaines, voire centaines de fermes véganes à l'échelle de la planète qui sont référencées, alors que il y a 200 millions de paysans dans Via Campesina, qu'il y a 1500 fermes en Belgique, enfin non, même en Wallonie, 1500 fermes qui sont certifiées bio, 37 000 au niveau du monde. Donc le bio, lui, il se développe, ok? L'agriculture végane, on a vu qu'elle existe depuis longtemps, bah, elle ne s'est pas développée. Hein? Et donc ça, c'est la question qui m'intéresse. C'est la question qui m'intéresse et que je voudrais essayer de résoudre à Vetopia. Ce n'est pas inventer l'agriculture végane, ça existe déjà, mais c'est inventer une agriculture végane performante qui peut quelque part concurrencer le bio et qui peut prendre des parts de marché. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit performant? Ben parce que sinon, ce n'est pas politique. Donc, si vous restez avec 100 ou 200 fermes dans le monde, ben, portée politique, zéro, hein. Donc, le fait de pouvoir prendre des parts de marché, c'est important. Et donc, je me suis posé la question de pourquoi on n'arrivait pas à prendre des parts de marché avec l'agriculture végane et que le bio, pourtant, lui, il performe, quoi, hein. Il s'étend partout. Alors, en fait, il y a un indicateur auquel on ne pense pas souvent, et pour moi il est fondamental, c'est la surface équivalente. La surface équivalente, pour moi, c'est ça la performance de l'agriculture. Donc aujourd'hui, l'agriculture wallonne, en tout cas, elle est fortement basée sur le système de la polyculture élevage, et vous n'avez pas que le bio qui fonctionne là-dessus. La différence, c'est que dans le conventionnel, ce modèle-là, il va être dopé avec des engrais chimiques, mais ça reste le même modèle. Et ce modèle-là, il a fait ses preuves, il fonctionne, il y a une certaine durabilité. Mais les agriculteurs bio, ils disent à juste titre qu'ils savent entretenir les terres et les écosystèmes, etc. Et c'est pas tout à fait faux. Donc, c'est quoi leur performance? Ben, leur performance, c'est 20%. Alors, si j'ai l'image, je vais vous le montrer en dessin. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, ça c'est le modèle du bio, 85% d'herbes, à peu près 10% de céréales et 5% de légumes et autres cultures. Hein, les 15% là, ça peut nourrir des hommes. Mais il y a la moitié à peu près au moins des céréales qui sert à nourrir quand même les vaches. Donc, c'est quand même encore un peu plus réduit. Et quand je fais ce ratio-là, je vois que j'ai à peu près 18% et demi. Bon, c'est un calcul, donc c'est à peu près 20% de la surface équivalente de la ferme qui sert à nourrir les humains. Pourquoi? Parce que vous avez sur 85% de l'herbe, avec un taux de conversion des protéines végétales en animal via le bovin qui est de 10%. Donc ça, c'est comme si on cultivait non pas 85%, mais 8,5% de la surface pour nourrir des humains. Hein? Donc c'est la performance quelque part de l'élevage et du système de transformation des protéines animales, enfin végétales en animales, qui va freiner le truc. Et donc, pour que leur système fonctionne et soit durable, etc., ils ont besoin quelque part d'avoir 80% de la surface. De services, je veux dire écosystémiques, qui sont en gros nourrir le bétail, et avec des écosystèmes prairies stables qui sont entretenus par le bétail, etc. Et donc, c'est comme s'il y avait 20% de productif. Alors, j'espère qu'on va encore avoir une image, parce que ça, c'est intéressant quand même de le montrer. Mais donc, on se compare à ça. Et donc, pour moi, si on veut battre le bio, il faut être meilleur que 20% de surface productive avec l'agriculture végane. Alors, malheureusement, le modèle qui a été développé d'agriculture végane n'y parvient pas. Pourquoi? Parce qu'on se base sur des vieilles idées de l'humus et on se base sur des concepts qui ont notamment été développés par Jean Pin. Hein, de compost de broussailles. Donc en gros, l'idée c'est on prend des matières organiques végétales, on fait un compostage et puis on utilise ça, on fait une couche de 10 cm sur le sol et vous cultivez là-dedans. Ok? Donc déjà, c'est un peu problématique. On dit qu'on veut nourrir la vie du sol, mais par contre, on va faire un processus hors sol qui est le compostage pour après mettre ça au-dessus du sol et donc pas toucher au sol, quoi. Donc il y a un truc un peu bizarre. Pourquoi ils veulent pas toucher le sol? Alors, ça, c'est 10% de la surface productive. En fait, le compost, j'en peins. Avant, il y avait pire, c'est la jachère forestière. De temps en temps, on coupe hein, et les arbres, et puis on cultive, et on brûle, et puis on cultive. Et puis on laisse la forêt se régénérer pendant 20 ou 40 ans, et puis on revient. Donc c'est 1 pour 40 de surface productive dans les systèmes sur brûlis, jachère forestière. Le compost, c'est déjà mieux, c'est 10% productif. Donc la polyculture élevage, je dis, c'est fois 4 fois 5, 4 fois la surface productive et non productive. Et alors, on a des nouveaux concepts comme le bois raméal fragmenté, alias le BRF, avec notamment les concepts d'agriculture du vivant, et même l'agroforesterie, qui eux, peuvent être plus performants. Et ça, c'est des idées nouvelles. Ça date des années 70. Donc dans les années 70, on a eu de nouvelles idées, et donc on a notamment l'idée que si on met les matières organiques fraîches dans le sol, eh bien on va avoir un meilleur rendement quelque part écosystémique, on va produire plus d'humus, on va donner plus d'énergie à la vie du sol, qui vont restructurer les sols et entretenir l'écosystème. Et alors effectivement, produire ces branches d'arbres, ça prend une certaine surface, hein, qui est quand même relativement importante. Si on compte les taillis qu'il faudrait, ben, il faudrait à peu près deux fois la surface cultivée de taillis qu'on récolterait, ou de haies, etc., qu'on récolterait pour mettre des branches arboriées sur la parcelle. Plus encore d'autres morceaux, parce qu'il faut aussi produire de l'azote, etc., donc il faudrait peut-être quand même de l'herbe, etc. Avec l'agroforesterie, c'est la pratique très ancienne qui consiste à associer sur une même parcelle des arbres et une autre culture en dessous. Et donc cette pratique très ancienne, qui est connue notamment chez nous avec le pré-verger par exemple, hein, cette pratique-là permet d'augmenter l'efficacité du système. Donc on a quelque part 150% de ce qu'on aurait si on avait d'un côté des arbres et de l'autre côté des cultures. Si vous les mélangez, vous avez 150% de production en arbres et en culture. Donc, l'agroforesterie a montré qu'effectivement, elle permettait d'entretenir la fertilité du sol sur des dispositifs qui ont maintenant 50 ans, avec une emprise assez réduite. Donc, on va perdre à peu près 20% de la surface. Et donc ça, c'est beaucoup mieux, 20% de la surface, que deux fois la surface, que 200% de la surface. Et donc, avec ces concepts-là, on a ce qu'il faut, à mon avis, pour inventer une nouvelle agriculture qui est plus performante que le bio. Et donc, voilà, on a ces nouveaux concepts qui ont été formalisés dans un truc qui s'appelle l'agriculture du vivant, et qui est en gros la permaculture en grand, quoi. Et donc, maintenant, on a de nouvelles idées sur l'humus. Mais elles n'ont pas été appliquées à l'agriculture végane. C'est ça le problème. Alors si on les applique, ça peut donner un schéma théorique comme ça. Ça, c'est un schéma théorique que j'ai imaginé. Avec une rotation, on mettrait des légumineuses, des céréales, des légumes, et où on fertiliserait avec de l'herbe, et donc de l'herbe fauchée, et du BRF. Et théoriquement, ça a l'air de tourner. Ça a l'air de pouvoir faire pousser des cultures et stabiliser des taux d'humus assez importants. Ça a l'air de fonctionner. Alors après, bon, il faut mettre ça en musique et vérifier si ça fonctionne dans la réalité. Ben, c'est ce qu'on fait à Vetopia. Donc on a d'abord fait un design, c'est ça. Donc ça, c'est le plan du terrain qui fait 2 hectares 6 en tout. Et sur lequel on a des blocs de 1000 m² qui peuvent servir effectivement à cultiver des céréales, des légumineuses ou des légumes. On a aussi des serres, on a des haies, on a une mini-forêt, des arbres en agroforesterie qui seront des arbres fruitiers, donc qu'on a déjà plantés. Et donc, on a imaginé en 2020 ce design. Il faudra un générateur.
Là, c'est vraiment beaucoup
de moments. Ouais. Et donc, voilà, on aurait... Alors, ces idées-là, on les a formalisées, donc on a réfléchi à ça depuis à peu près 2016. Hein, et puis, petit à petit, on a formalisé ça. Donc, on a fait une entente avec un promoteur immobilier qui s'appelle Matexi. Et donc, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit assez vite, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous fassiez votre projet chez nous? Et donc, ils avaient déjà imaginé sur leur projet immobilier qui est à côté de Liège, à Oupeil, de consacrer à peu près la moitié constructible du terrain à de l'agriculture. Et donc, de le sanctuariser. Et ils avaient appelé ça paysage productif et éducatif. C'était sur leur plan avant qu'on se rende compte, quoi. Donc, ils avaient déjà cette intention-là. Et donc, bah voilà, on a fait affaire avec eux et on leur a fait une étude de projet. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a dit, bah, on pourrait signer un bail à ferme. Et donc, on a signé un bail à ferme de 50 ans avec eux. Et aussi une convention de partenariat où ils nous aident, notamment pour les permis d'urbanisme. Et où, tant qu'ils n'ont pas construit l'autre partie, ben, on la fauche. Et c'est avec ça qu'on fait pousser nos cultures. Donc, on a une partie de prairie. On leur a fait semer de la prairie sur le reste. Et puis nous, on la fauche, on paye les frais de la fauche, et puis ça nous donne des ballots, et avec ça, on fertilise nos cultures. Et on en met des belles quantités, quoi. Alors, que dire encore? Plein de choses. Mais j'aimerais bien vous montrer mes photos. Ah, ça va revenir. Donc je vais quand même attendre un peu. Et donc ça, effectivement, bah, c'est des partenariats assez originaux. Mais quand voilà, on pourrait se dire, on va pas s'associer avec telle ou telle personne parce qu'on est aussi anticapitaliste ou contre la bétonisation, etc. Maintenant, voilà, quand on a une cause, bah, il faut aussi pouvoir centraliser ce qui nous importe, quoi. Donc ce qui nous importe, c'est de pouvoir développer de l'agriculture végane. Tout ce qui contribuera est le bienvenu. Et voilà. Et donc, effectivement, on a ce paysage productif et éducatif. On a fait le design pour rentrer dedans et plop. Et puis, on l'a implanté avec leur géomètre qui est très sympa et qui est devenu membre de notre coopérative d'ailleurs. Et qui a mis les arbres, ils sont centimètres comme sur le plan, quoi. Et donc, effectivement, on utilise du foin pour fertiliser, du BRF. Et au final, ben, ça donne des résultats extraordinaires en termes de régénération du sol. Donc, on a un sol qui était repris en masse et qui ressemble à une sorte de béton, qui a une bonne base, mais voilà, qui a été un peu maltraité par une monoculture de maïs pour nourrir le bétail pendant des années. Et donc, nous, on le régénère assez rapidement avec cette fertilisation purement végétale. Alors les consommateurs sont contents, donc on a aussi un rôle social assez important parce qu'on est en auto-cueillette et donc les gens peuvent venir chercher leurs légumes sur les parcelles. Bon, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peut-être travaillent tard, etc., qui peuvent accéder aussi à une alimentation de qualité pour pas être trop cher grâce à ça, quoi. Et donc on a toute une série d'éléments positif autour de l'aspect social. C'est un projet qui est très apprécié dans le quartier. Et aussi, il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout véganes qui s'investissent dedans. Et donc, ça permet aussi des échanges entre véganes et non-véganes. Et ça, je trouve ça sympa. Alors, on a planté 1000 arbres l'hiver dernier, en comptant les haies et à peu près 120 arbres aux tiges dans les parcelles. On fait aussi une soupe populaire, là, maintenant. Donc, on a à peu près distribué 700 litres de soupe gratuite à des personnes qui sont à la précarité, en partie SDF et aussi beaucoup de personnes qui sont simplement très pauvres, quoi. Et donc, on distribue ça on travaille avec une association locale et on va faire notre propre soupe. Et je pense qu'il y a une valeur énergétique extraordinaire dans les aliments qu'on produit. Et que, donc ici, l'idée, c'est donner le meilleur à ceux qui en ont besoin, et donc pas donner pas utiliser quelque part, enfin, cuisiner des déchets pour des déchets humains, hein, ce qui est déjà pas si mal du temps de Coluche et des Restos du Cœur, mais penser un peu différemment, dire voilà, s'ils sont dans la misère ou qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin de la meilleure nourriture pour s'en sortir, quoi. Et donc, cette nourriture végane est excellente et tout le monde adore la soupe, quoi. Donc, on fait des chantiers participatifs, on a des stagiaires, on fait pas encore vraiment des formations de plein cycle parce qu'on n'a pas les bâtiments, mais sinon, il y a quand même une activité, on initie beaucoup de gens à l'agriculture, et donc ça aussi, c'est pas mal. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, où en est-on? Alors, on voit déjà des résultats, donc ça, c'est le foin qu'on a épandu cet hiver. Hein, donc On a notre entrepreneur qui épand le broyat aussi. Donc cet hiver, on a épandu 150 mètres cubes de BRF et à peu près 50 tonnes de foin en silage. C'est-à-dire que c'est du foin qu'on met dans des ballots plastiques emballés. Donc ça fait une fermentation lactique. C'est pour éviter qu'il y ait de l'oxygène dedans. Et ça fait une fermentation lactique. Donc c'est une sorte de pickles d'herbe qui, à mon avis, est une très très bonne nourriture pour la vie du sol. Donc ça marche très très bien et de manière très rapide. Donc on observe aussi des arrière-effets désherbants sur l'oignon notamment. On a produit à peu près, j'estime, on n'a pas malheureusement tout vendu hein, parce qu'il y a des problèmes de commercialisation, c'est pas facile pour le moment. Mais on a produit à peu près une tonne par semaine l'année passée sur le site de légumes. Et donc ça a très 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 bien donné en termes de rendement. Donc ça, c'est l'état actuel des choses. Alors voilà, je dirais, on a prouvé qu'on savait produire, on teste, on observe des résultats, amélioration du sol, gestion des mauvaises herbes. Après l'utilisation du foin en paillage, c'est assez marqué. Croissance rapide des plantes aussi, donc on voit que ça, l'alimentation, le foin oscillé a un impact très rapide en termes de fertilisation. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on pouvait s'imaginer qu'on allait passer par enfin, qu'il allait falloir du temps pour que les éléments nutritifs soient libérés. Donc on est dans une situation qui est quand même pas mal, mais qui doit encore être affinée, ça c'est certain. Alors aujourd'hui aussi, je pense que le projet, en fait, il commence à être connu. Donc on a eu des stagiaires du sud de la France, d'Allemagne. Donc il y a une certaine notoriété du projet. Il y a pas mal de gens qui connaissent ce projet. On a eu des presses. On est passé, il y a eu un petit reportage au début sur la RTBF. On est assez bien soutenu aussi par l'Association végétarienne française qui nous a fait un dossier là-dessus. Puis Reporter récemment nous a fait un article dans le cadre d'un dossier sur Vetopia. Donc ça, c'est pas mal non plus. Donc on commence à être connu et c'est déjà quelque chose d'intéressant, quoi. Ça permet aussi de faire passer un peu les idées. Alors, est-ce qu'on va de nouveau avoir de l'image ? Ouais. Oui ? Et donc j'ai encore
25 minutes avec les questions.
Ok, moi ouais, ça devrait aller.
Oui, enfin, je déborde un peu, c'est pas. Ça va.
D'accord. Non, ça va, j'avance bien. Donc alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il reste encore beaucoup de choses à développer quelque part. Hein. Donc on a notamment des besoins en termes d'investissement parce que donc on doit faire nos bâtiments. Si on peut pouvoir accueillir aussi les gens pour pouvoir les former notamment et pour des visites, etc. C'est important qu'on ait des petits bâtiments et on doit aussi avoir des bâtiments pour pouvoir conserver les produits, etc. Donc voilà, ça fait partie du plan. Il y a aussi des besoins en termes de machines. Donc on a une coopérative qui investit dans les outils et qui les loue à la SBL qui met en œuvre le projet. C'est ça notre montage. Mais donc là, en termes d'investissement, il nous faudrait encore 150 à 200 000 euros à peu près, assez rapidement. Et à la rigueur, c'est le côté un peu... un peu chiant, on s'en fiche, quoi, tu vois, parce que il y a déjà le tax shelter qui rend 45% de crédit d'impôt, et jusqu'à 100 000 euros par contribuable et par an, on espère pouvoir donner 2% de dividendes, donc c'est simplement du slow business, c'est pas très excitant, mais voilà, on en aura besoin d'investissement. Élément qui, à mon avis, est plus essentiel, c'est financer l'innovation. Donc l'innovation, ça coûte. Hein. Alors voilà, ici, il y a peut-être une start-up à lancer pour développer l'agriculture végane. Une recherche, en fait, ça dure dans ce genre de contexte à peu près 2-3 ans et ça coûte à peu près 225 000 euros si on fait ça soi-même. Bon, si vous voulez regarder en Wallonie, les études qui sont financées par le secteur public, c'est en moyenne 470 000 euros par recherche, hein, donc dans les recherches et développement qu'ils font avec des entreprises et tout ça, il y en a beaucoup, et ça, c'est 470 000 euros par recherche. Si vous voulez rentrer là-dedans, ça prend plus de temps, finalement, va occasionner peut-être que ça va coûter ce prix-là pour la même chose, parce que vous allez devoir mobiliser des universités qui sont bankable, et vous allez avoir des partenaires qui vont peut-être pas vraiment aider, mais qui vont permettre d'obtenir le pognon, etc. Donc, moi, je suis plus partant pour essayer de trouver des business angels pour financer la recherche et développement dans un cadre de start-up. Alors, qu'est-ce qu'elle ferait cette start-up ? Elle diffuserait le modèle, tout simplement. Donc, on met au point l'agriculture végane, et puis ensuite, on pourrait avoir une multiplication des fermes, hein, avec un système de franchise et de consultance. On pourrait faire de la consultance pour des grands groupes, hein, pour par exemple Carrefour ou Colruyt, qui ont des agriculteurs qui produisent pour eux, pour dire tiens, si vous avez envie de produire vegan, nous on peut former vos agriculteurs, on pourrait faire des missions de consultance. Et d'autre part, on pourrait aussi développer un système de franchise, c'est-à-dire qu'on amènerait un pack de suivi, etc. On créerait un ensemble de services, d'abord de formation, et puis aussi appuyer la commercialisation, suivre les aspects, les innovations techniques, etc., location d'outils, etc. On pourrait faire un pack qui permet à des gens de s'installer sur des micro-fermes véganes et de bénéficier pour un tarif relativement réduit de toute une série d'expertises qu'on aurait développées. Et donc, ça pourrait être récursif, parce qu'à un moment, il faut des gens pour former des gens. Ça pourrait être récursif, c'est-à-dire que les premiers qu'on formerait, ce serait un peu le modèle, ils deviendraient formateurs pour les suivants, et donc le système pourrait rouler comme ça. Donc là, on est en fait actuellement avec Vetopia au stade labo, la ferme 1, et le labo, il n'a pas encore tout à fait fini son cycle. Ensuite, il faudrait pouvoir accompagner un certain nombre de premiers adopteurs du modèle. Et donc, on aurait peut-être 3-4 fermes qu'on suivrait. Et puis, alors après, ceux-là pourraient devenir les formateurs pour en mettre partout. Et donc ça permettrait d'arriver à une échelle politique. Alors, je vous dirais, est-ce que l'agriculture végane, ça se vend ? Non, hein. Tout le monde s'en fout. Mais est-ce que quelque chose se vend demain ? Est-ce qu'il y a un marché pour l'agriculture végane ? Non. Mais est-ce qu'il y a un marché demain ? Donc il y a Macron qui ferme là. Hein, donc est-ce qu'il y a un marché demain ? Alors quand on est dans une situation économique comme on l'est aujourd'hui, peut-être à mon avis c'est l'occasion de vraiment aller sur l'innovation. Et aussi les convictions, d'essayer d'avoir des modèles qui sont réellement cohérents. Où est-ce que l'agriculture végane peut cartonner ? C'est par sa performance et par sa cohérence. Par le fait que cette agriculture est en cohérence avec les enjeux planétaires en termes d'écologie et qu'elle va être beaucoup plus performante si on la soigne bien. Et elle va permettre effectivement de continuer à cultiver alors que les autres auront du mal à se fournir soit en aliments pour bétail, soit en engrais. Hein, donc, faut savoir par exemple qu'au niveau mondial, une unité d'azote organique suppose qu'on ait mis 2 unités d'azote sous forme d'engrais chimique pour la produire. Donc, tout est lié, même le fumier bio, il est quelque part lié d'une certaine manière aux engrais chimiques, au pétrole. Et donc, tout ce système-là est en train de s'effondrer, en tout cas d'avoir de grosses difficultés, des instabilités, etc. Nous, ici, on est tranquille, hein. On a nos réserves de foin, là, pour des années. Notre fertilité, elle est dans le sol. Même si je mets plus rien, ça continue à produire. Hein, nous, on sera tranquille, quoi. Et donc ça, un modèle qui est réellement performant, ça peut effectivement nous faire gagner aussi, quelque part, la bataille politique de dire, on veut véganiser l'agriculture. Alors, je vais regarder. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore mettre au point ? C'est quoi cette recherche et développement ? C'est le fine-tuning. Donc déjà, la gestion des mauvaises herbes, les rotations. Bon, on n'y est pas pour l'instant. On n'a pas pu vraiment appliquer le modèle, hein, donc c'est très difficile. Donc au début, hein, on a beaucoup de contraintes, etc. Donc il faut pouvoir se donner le temps d'appliquer des systèmes de rotation, de les valider, etc. Et de voir comment est-ce que ça fonctionne avec les cultures. Parfois on essaye un truc, on dit bah ouais, ça, tiens, on a remarqué que ça marchait très bien de mettre du foin sur les oignons, par exemple. Hein, voilà, ça va pas trop. Alors on joue avec différents outils, les bâches, etc. Donc rien que de mettre au point ce qu'on fait, ça va déjà prendre du temps et de la ressource. Alors, développer un système de commercialisation, ben, il faut se donner la peine de le faire. Et donc moi, je crois à un modèle, c'est le HelloFresh. Donc amener des packs de que ça se cuisine ensemble, mais en faire un vegan, quoi. Et donc ça suppose d'avoir une analyse, d'avoir de travailler avec des diététiciens pour développer aussi des plans de culture et donc de cultiver des recettes. Parce que quand vous amenez, qu'est-ce qui se passe avec les paniers de produits? Moi j'en fais, hein. Vous amenez tout, oh, encore des choux, enfin, bon, et puis ça se cuisine pas, puis ils doivent aller au magasin pour acheter des trucs, puis, ça, puis ils demandent tous, ils pleurent tous après des recettes, etc. Donc on sait très bien que si on veut vendre du légume, hein, le problème c'est le légume qu'on a livré la semaine d'avant, qui est toujours là, ils disent, oui, mais il m'en faut plus, hein, j'en ai encore, et parce qu'ils savent pas les manger, parce qu'il n'y a pas les recettes, parce que ça va pas avec les autres qu'on leur a livrés. Et donc, faire un HelloFresh vegan, c'est, à mon avis, le meilleur moyen de performer en termes de commercialisation. Mais ça suppose de réfléchir recettes, saisons, et c'est diététique, et c'est un gros travail. Alors, il y a un problème. Donc, dans le modèle de production tel qu'on l'a imaginé, on va intégrer, pour des raisons agronomiques, la céréale et la légumineuse. Et c'est aussi pour des raisons nutritives. Hein, donc, avec ça, on estime qu'avec notre site, on pourrait nourrir totalement 50 véganes sur donc en surface brute totale, ça fait 500 mètres carrés en comptant les chemins, les bâtiments, l'herbe et tout, les arbres et tout bazar, 500 mètres carrés par végane pour nourrir complètement. Donc ce système là il est quand même assez performant, mais il suppose de pouvoir associer les céréales qui produisent beaucoup de calories, aussi les légumineuses qui fixent l'azote et qui amènent aussi beaucoup de protéines. On se heurte à la question de l'outil de récolte, en fait. Donc, pour arriver à faire ça, il faut qu'on ait des machines, des micro-machines, et ça existe, mais il faut savoir lesquelles trouver les bonnes machines pour récolter les légumineuses et les céréales dans des micro-blocs maraîchers. Et donc ça, c'est du développement technique. C'est les Chinois, ils fabriquent des machines comme ça pour le riz, et donc trouver la bonne, l'importer, l'essayer, adapter, etc. Donc c'est un peu de la recherche outil. Et il y a d'autres paramètres aussi, d'outils à développer pour avoir des systèmes qui sont réellement efficaces et où on peut venir vers un maraîcher vegan qui voudrait s'installer et lui dire, ben voilà, tiens, t'as un package technique, il faut telle et telle et telle machine. Hein, souvent, la recherche et développement, ça aboutit à ce que vous avez des cimetières de vieilles machines à l'entrée des maraîchers parce qu'ils ont essayé tout et puis c'est resté là parce qu'ils ne les utilisent pas. Donc, c'est de la recherche et développement aussi de vraiment établir des petites machines low-tech dont on a besoin. Ce n'est pas des trucs trop compliqués, parce que ça doit être des trucs polyvalents, mais il faut les bonnes. Donc ça, c'est un aspect. Et puis alors, le monitoring, la quantification et le suivi des analyses, c'est important aussi, parce que si on veut pouvoir vendre une agriculture qui stocke du CO2, qui développe la biodiversité et qui fait des bons produits, bah, il faut mesurer. On dit, bah, mais c'est toi qui le dis. Tu vois, donc il faut mesurer. Donc on a fait des analyses à l'entrée. Bah, il faut faire des suivis d'analyse réguliers, montrer les paramètres, etc. Donc c'est important aussi. Et donc ça aussi, c'est des coûts, ça prend, c'est ça qui va prendre effectivement à peu près 3 ans et 225 000 euros de travail, tout simplement. Alors, la gestion écosystémique des maladies et des pathogènes, c'est très important aussi. Donc nous, ben, on va travailler avec les régulateurs naturels des pathogènes de nos cultures. On va aussi travailler donc avec les coccinelles pour manger les pucerons, etc. On va travailler aussi avec des plantes, donc essayer de soigner des plantes par des plantes. Donc c'est les élixirs végétaux, les extraits végétaux. Donc il y a toute une série de plantes qui sont utilisées pour soigner les plantes. Et donc voilà, ça aussi c'est de la recherche et développement, quoi. Et voilà, j'ai fini. Merci.
Un tout petit
petit peu de retard, mais voilà, il y a quand même la place.
Non, on a encore un quart d'heure.
Quoi?
On a encore 10 minutes.
Donc normalement, on a un super micro, mais qui est trop tributaire de l'électricité. Et donc voilà, on vous invitera à parler bien fort et bien sûr à respecter la parole de chacun et de chacune. Qui veut se lancer?
Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais justement une question quand vous parlez de dépasser la rentabilité du bio ou au moins de s'en approcher du bio donc conventionnel. Mais il y a justement une des critiques que j'entends beaucoup du bio, outre l'utilisation de produits animaux, c'est justement que le bio a quand même une rentabilité qui est peu comparable à l'agriculture conventionnelle et dans la mesure où on a un besoin grandissant de production de nourriture sur des surfaces plus réduites. Est-ce que ça peut être réellement une démarche pertinente de se dire on veut arriver à un niveau de rentabilité du bio? Est-ce que ça permettrait de nourrir assez de gens? Ou alors, cette critique du bio fonctionne dans le paradigme où on a une grosse partie des terres qui est déjà utilisée pour les animaux et donc en effet, dans ce cas-là, le bio ne pourrait pas fonctionner?
Oui, mais alors, en fait, je dois un peu démêler la question parce qu'il y a, en agriculture, on a ce qu'on va appeler le rendement, la quantité de nourriture que vous pouvez produire par unité de surface. Et puis, on va parler aussi de productivité. Et ça, c'est la quantité soit de nourriture, soit d'argent que produit un travailleur. La productivité, c'est lié aux machines. Et là, le rendement, c'est lié aux engrais, en gros. Hein, donc, si vous mettez des engrais, qu'ils soient végétaux, bio, chimiques, vous mettez des engrais, ça va produire le rendement. Et par contre, les machines, elles vont permettre d'économiser le travail humain. Et donc, même, par exemple, une pompe, hein, qui est la plus basique des machines, qui ne consomme pas beaucoup, hein, et bien, vous voyez, une pompe, quand c'est canicule, s'il faut irriguer tout un terrain comme Vetopia, ça va consommer moins que votre maison, hein, sur l'année, pour nourrir 50 véganes, quoi. Hein, donc, c'est pas énorme, mais par contre, c'est de la mécanisation. Et donc, là où je veux concurrencer le bio, c'est sur la surface réellement utile pour produire, pour nourrir les gens. Et je vais vous expliquer ça comme ça. Vous vous développez avec l'ancien système, qui est le système Jeanpin. Hein, vous arrivez, et puis en fait, vous essayez, ça marche très bien. Vous produisez, les légumes sont magnifiques, ça marche très bien. Et puis, en fait, vous calez, vous n'arrivez pas à vous étendre parce que vous ne trouvez pas la ressource, parce qu'il n'y a pas assez de matière. Et donc, vous restez un petit truc. Et c'est pour ça que c'est tout des petits trucs. Par contre, le bio, il arrive, il a un système où il dit, voilà, c'est pas grave, je sème des prairies, je mets quelques sacs de graines, hein, et puis j'ai mes herbivores, et puis ça fait du fumier, etc. Et puis ça tourne, et tu lui donnes 100 hectares, 1000 hectares, 1 million d'hectares, et pas de problème. Mais le système Jeanpin, il est calé parce qu'il n'y a pas la ressource. Et c'est quand même un peu pénible, ça pousse lentement, etc., de faire des arbres pour le... C'est pour ça que ça ne se développe pas. Et là, je n'ai pas encore parlé de performance en termes économiques, parce que ça va dépendre plutôt des machines, et de rendement, parce qu'en fait, en rendement, on est pratiquement au maximum des rendements possibles. Hein, donc, y a des gens qui disent qu'on pourrait encore les déplafonner, et c'est vrai que ça arrive, il y a des questions de changement climatique, mais on est quand même, par rapport à l'histoire de l'humanité, dans une période où les rendements sont extraordinaires. Hein. Donc en 1850, on faisait une tonne de céréales à Modave, où j'ai travaillé, par hectare, et maintenant, y a eu des années où on a sorti 13 tonnes. Quoi. Hein, et donc, en fait, la population belge, c'était 1 million, et maintenant, c'est 11 millions. Donc, comment est-ce qu'on a produit cette population belge? Avec les engrais chimiques, qui ont permis de passer de 1 tonne à 10 tonnes par hectare. Plop. Ça, c'est comme ça, c'est les engrais chimiques qui ont produit les Belges. Mais oui, c'est avec ça qu'on vous a produit, quoi. Votre corps, il est fabriqué avec ces engrais chimiques. Et donc, ici, moi, l'objectif, c'est de créer une agriculture où vous arrivez quelque part, vous dites, oh, faire agriculture végane, ah, et puis, 100 hectares, oui, 1000 hectares, oui, 1 million d'hectares, allez, on y va. Et le bio, il fait ça. Ça répond?
Oui, ça.
Oui.
Et madame,
peut-être, j'ai aussi pensé de mélanger bio et vegan, et je me demande pourquoi ça n'est pas possible, pourquoi vous utilisez l'approche qui peut utiliser les deux.
Alors nous, on se fait certifier bio. Mais par contre, le modèle et l'agriculture végane actuelle qui existe, hein, biocyclique, elle est bio aussi. Donc c'est tout à fait possible de le faire bio. Mais par contre, la base du bio, historiquement, c'est la polyculture élevage. Et il y a même la biodynamie, ils sacralisent la vache. Et donc, nous, on est moins liés à ça parce qu'on va plus s'affilier avec la permaculture, où dans la permaculture, on n'a pas forcément cette sacralisation de la vache comme dans la biodynamie. Mais voilà, on peut tout à fait le faire en bio et on le fait en bio. Oui.
Je me demandais, est-ce que vous n'avez pas peur, au moment où vous avez passé justement aux légumineuses, aux céréales, que les sols soient beaucoup plus pauvres en phosphore et en azote, et que le foin ne suffira pas à apporter et à nourrir le sol en ces nutriments?
Alors, le problème du phosphore est particulier. Le problème de l'azote, j'ai pas peur pour l'azote. Donc, l'azote, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, une des critiques que vous allez trouver chez mes collègues agronomes qui sont pas du tout favorables à l'agriculture végane, ils disent oui mais les prairies c'est un écosystème magnifique, etc. Ben ouais, nous aussi on a des prairies, hein, voilà, il y a 3 hectares de prairies, on les fauche, tout va bien, nous aussi on a des prairies. Donc en fait c'est la prairie qui en bio va nous permettre de fonctionner au niveau de l'azote, hein, et un peu du phosphore. Mais donc je vais d'abord parler de l'azote. On pourrait faire avec des engrais chimiques, mais ce ne serait pas forcément durable. Et donc nous, ici, on produit avec la prairie, mais au lieu de donner le foin à manger à des vaches, on le donne à des vers de terre qui sont dans le sol, quoi. On le donne à la vie du sol, directement sur la parcelle, quoi. Et donc on a court-circuité le système du bio, de la polyculture élevage, en sautant l'étape vache, quoi. Et donc, c'est pas très compliqué. Et ça, en termes d'azote, ben, on va en avoir beaucoup plus. Parce que en fait, le système où vous mettez la vache, bah, d'une part, il sort de l'azote par les productions animales, par le lait et tout ça, il y a de l'azote dedans. Et puis d'autre part, il y a énormément de pertes. Donc il y a au moins 60% de l'azote qui se volatilise dans l'atmosphère. Ça participe à la pollution, etc. Beaucoup d'azote qui se perd, qui est volatilisé dans le processus du compostage de fumier, etc. Et donc, nous, on en donne plus, quoi. Donc, on sera plus performant en termes d'azote. Par contre, alors, le phosphore, c'est vraiment un problème. Et en fait, ça, c'est quelque part, il y a un peu des stocks qui ne sont pas toujours bien répartis. Donc, si vous n'avez pas trop de chance et que vous n'avez pas trop de phosphore, ben, c'est difficile. La seule vraie solution qu'on aurait idéalement, c'est d'utiliser les déjections humaines. C'est-à-dire que vous mangez du phosphore. Et vous faites pipi du phosphore, d'accord? Et ça, on le jette. Mais oui, mais on a une ressource limitée. C'est des trucs fossiles, enfin, c'est des guanos, c'est des oiseaux qui ont fait des cacas sur des îles pendant des milliers et des milliers d'années. Et alors, on vient creuser ça, et c'est ça les engrais phosphore. Ok, donc des oiseaux marins qui mangeaient des bestioles dans la mer, et puis ils venaient faire caca sur une île, et ça fait une énorme, énorme, énorme couche de guano, et c'est ce guano-là, c'est ça les ressources, les mines de phosphore. Et puis après, il n'y en a plus. Et donc c'est assez rare. Et donc le seul moyen d'en avoir éternellement, c'est d'utiliser les déjections humaines et de les remettre sur les parcelles. Et de ne plus faire pipi dans l'eau potable, quoi. Ça, c'est important. Mais alors ça pose des problèmes sanitaires, d'organisation de société, etc., de réseau d'égouttage et tout le bazar. Mais techniquement, c'est la solution que n'importe quel agronome il va être d'accord avec moi. Hein. Ça répond?
Oui.
Allez.